Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens du 28 mars 2018. Et surprise ce matin, Jean-Sébastien Laliberté est dans la station, mais il est occupé ailleurs. Alors, c'est Maurice Bolduc qui est là. Bonjour,
oui.
Maurice.
Oui, bonjour.
Ça va?
Oui, vous-même?
Oui, merci. Même si ça a l'air de novembre à l'extérieur, mais...
Non, ça sent le printemps, je trouve.
Vous trouvez?
L'air.
OK. On s'entend jamais nous autres, de toute façon. Mais
Oui, on s'entend toujours. C'est une température.
Oui, je sais. Ouais. J'aime ça vous provoquer un peu. Alors, Maurice, est-ce que vous avez préparé la chronique éphéméride? Allez-y donc.
Quelques trucs assez tranquilles en ce 28 mars.
On vous écoute.
Donc, en 1380, c'est le premier usage de la poudre à canon en Europe lors d'une bataille entre Vénitiens et Génois. Mais j'imagine que ça avait été inventé quelques années avant en Chine. C'est une invention chinoise en bout de ligne. En 1797, c'est le brevet d'invention qui est déposé pour la machine à laver. Ça, grâce à ça, les femmes, justement, pouvaient devenir de plus en plus zen. En tout cas, les libéraient d'une grosse
corvée. Les femmes, les hommes n'en faisaient pas de lavage?
En 1797? Pas sûr.
Peut-être qu'un ou deux.
un ou deux par mille, c'est ça. Ouais. Mais quand même, c'est une grande libération pour les femmes avec cette invention. En 1800, c'est l'union de l'Irlande et de l'Angleterre. En 1882, c'est l'enseignement en France qui est déjà gratuit, devient laïque et obligatoire. En 1910, c'est le premier vol d'un hydravion. 1918, c'est les premières rébellions au Québec après l'adoption de la loi de la conscription. En 1930, on rebaptise deux villes, en fait. À l'époque, elle s'appelait Byzance. Ensuite, elle s'est appelée Constantinople. Et en 1930, on la rebaptise Istanbul.
Une ville magnifique.
Oui, en Turquie. Et la ville, on l'appelait Angora, est devenue la ville d'Ankara. Donc, le tout en 1930. En 1976, la population franchit le cap du 4 milliards de personnes. 40 ans plus tard, j'ai regardé tout à l'heure, où on est rendu à 7 milliards 550 millions. Donc, ça a quasiment doublé en 40 ans. En 76, on adoptait l'heure d'été. Ça, j'ai oublié ce truc-là, mais en tout cas, c'est très, très controversé, ça, l'heure d'été, l'heure
c'est
avancée.
C'est en quelle année, ça?
En 1976.
Bon, ben l'heure d'été, c'est l'heure avancée.
Oui.
Ouais.
Donc, mais en tout cas, c'est toujours encore remis en question.
Oui, 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 oui.
En 1979, c'était l'incident nucléaire à la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie. Et on souligne trois décès. En 1943, le compositeur russe Sergei Rachmaninov décédait. Il était né en 1873.
Il me semble qu'on annonçait sa mort hier.
Ah oui?
Mais je ne suis pas sûre, là, mais quelquefois, on ne s'entend pas sur les dates.
Ah oui,
là,
oui,
mais
oui. Donc,
il est mort en mars,
J'ai un petit point d'interrogation pour la prochaine.
Ah oui?
En souhaitant qu'elle ne meure pas au demain ou hier. La romancière anglaise Virginia Woolf.
Bon, elle est morte, c'est sûr, mais...
Okay, en 1941, le 28 mars, en théorie. Et l'ancien premier ministre, Lomer Gouin, lui disparaissait en 1929. Ça fait le tour de ce 28 mars.
Merci, Maurice. À la une de la presse, budget Québec 2018, tous azimuts, la hausse des dépenses proposée hier par le ministre des Finances Carlos Letao est la plus élevée en 10 ans et touchera tous les Québécois. Voici ce que vous devez savoir. Alors, il y a l'éditorial de François Cardinal intitulé « De tout pour tout le monde », l'analyse de Denis Lessard, électoraliste comme de raison, et la chronique de Stéphanie Grandmont, « Rien d'extravagant ». Escroquerie par téléphone de 2,5 millions. Disparition du petit Ariel, 3 questions. Budget Letao, alors je suis dans la section Affaires, Isabelle Dubé, ce qui change pour vous. Qu'est-ce que le budget Letao 2018 changera dans votre vie de tous les jours? Voici 6 éléments qui pourraient vous toucher. Achat d'une première maison, la forte augmentation du prix des maisons est un frein à l'acquisition d'une première propriété. Avec cette toute nouvelle mesure, les premiers acheteurs pourront profiter d'un crédit d'impôt non remboursable de 5 000 qui couvre les dépenses découlant de l'achat d'une maison, d'un condo ou d'un immeuble à revenus utilisé comme résidence principale. Le crédit d'impôt du Québec combiné à celui du fédéral permettra aux premiers acheteurs d'obtenir jusqu'à 1 376 de réduction d'impôt. Cette mesure prévoit aider 47 000 familles dès cette année. Les résidences achetées à partir du 1er janvier 2018 sont admissibles. Ensuite, frais de garderie privée. Les familles dont les enfants ne fréquentent pas un centre de la petite enfance pourront bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable supplémentaire. Aidants naturels à l'extérieur du domicile. Actuellement, les aidants naturels qui ont droit à un crédit d'impôt sont ceux qui habitent avec la personne aidée. À partir du 1er janvier 2018, les aidants naturels qui ne résident pas avec la personne ayant besoin d'assistance pour réaliser certaines tâches de la vie quotidienne pourront obtenir un crédit d'impôt remboursable. Alors, on parle ici du 1er janvier 2018, c'est déjà passé. Peut-être que c'est à partir du 1er janvier 2019, à moins que ça soit rétroactif. Enfin, j'essaie de comprendre la nouvelle. Ce crédit d'impôt s'applique seulement si la personne aidée ne vit pas avec un aidant naturel et qu'elle possède une attestation médicale certifiant qu'elle a une déficience grave et prolongée de ses fonctions physiques ou mentales. Le montant maximal est de 533 par année pour une personne aidée ayant un revenu net de 23 700 et moins. Le crédit diminue en fonction du revenu et s'élève à 5 $ pour une personne aidée ayant un revenu net de 27 000 $. Le gouvernement prévoit que cette mesure permettra de rejoindre 20 000 aidants naturels. Et je poursuis avec incitation à rester au travail pour les aînés. Le marché du travail n'a jamais eu autant besoin de garder sa main-d'œuvre expérimentée. Le gouvernement veut convaincre les Québécois âgés de 60 ans de retarder leur départ à la retraite et inciter ceux qui étaient déjà partis à retourner travailler. L'âge d'admissibilité du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience passe donc de 62 à 61 ans et le gouvernement bonifie le plafond du revenu de travail disponible de 1 000 Concrètement, cela correspond à un crédit d'impôt de 450 $ pour un travailleur de 61 ans avec un revenu de 30 000 $. Le travailleur de 62 ans avec le même revenu aura un gain de 150 $. Nouveau produit admissible pour aînés. L'achat de prothèses auditives, de systèmes d'avertissement pour les malentendants, de marchettes, de cannes et de fauteuils roulants non motorisés sera maintenant couvert par un crédit d'impôt. Ces biens s'ajoutent à ceux qui étaient déjà admis, comme les baignoires et douches adaptées, les escaliers adaptés avec fauteuil sur rail et les dispositifs de repérage d'une personne par GPS. L'aide sera aussi plus généreuse. La franchise annuelle de ce crédit d'impôt pour les biens visant à prolonger l'autonomie des aînés passera de 500 à 250 $. Par exemple, une personne âgée de 75 ans qui achète une prothèse auditive à 5 000 aura une aide fiscale de 950 $. Et pour terminer, je m'excuse, j'ai donné un mauvais signe à Maurice. Rénovaire prolongé. Depuis 2016, les ménages québécois ont pu bénéficier d'un crédit d'impôt pour améliorer l'efficacité énergétique de leur résidence, totalisant 521 millions de $. Le programme a permis aux Québécois, entre autres, de changer les portes et fenêtres de leur maison, d'améliorer leur système de chauffage et d'installer des panneaux solaires. Le crédit Rénovaire est prolongé encore d'une année. Les propriétaires ont jusqu'au 31 mars 2019 pour conclure une entente avec un entrepreneur qualifié. Rénovaire est un crédit de 20 % qui s'applique aux rénovations résidentielles de plus de 2 500 $. Le crédit maximal est de 10 000 $, ce qui correspond à des rénovations de 52 500 $. Thank you. accusé de fraude téléphonique à grande échelle. Où que vous soyez au Canada, si vous avez reçu un appel intimidant au sujet d'une facture de publicité web en souffrance qu'il fallait payer immédiatement alors que vous n'aviez pourtant rien demandé, vous avez probablement eu affaire à Sonia Abruzzo. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler au téléphone, résume le gendarme Simon-Pierre Sauvé, responsable de l'enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada, d'un océan à l'autre sur les activités de la résidente de l'arrondissement de La Salle, accusée d'avoir volé au moins 2,5 millions à de petites entreprises familiales canadiennes grâce à ses innombrables appels frauduleux. 14 chefs d'accusation criminelle viennent d'être déposés à Montréal contre la mère de famille de 41 ans. Le Centre opérationnel de lutte contre le télémarketing frauduleux de la GRC était sur ses traces depuis 2014. À l'époque, des dizaines de plaintes provenant de partout au pays avaient alerté les enquêteurs. Une enquête a été ouverte, le projet clôture. Le stratagème observé était simple, mais il nécessitait beaucoup d'effronterie. Une femme prenait contact avec des entreprises en se faisant passer pour une avocate ou une agence de recouvrement. Elle prétendait que l'entreprise avait signé une entente pour acheter de la publicité sur l'Internet des années auparavant, mais qu'elle n'avait jamais payé la facture. Il fallait maintenant régler la note d'urgence pour éviter de sévères répercussions légales. Certains gestionnaires tombaient dans le panneau même s'ils ne se souvenaient pas d'avoir acheté des services publicitaires. Peut-être qu'un de leurs employés ou de leurs anciens collègues avait acheté de la publicité sans en parler. Peut-être que la facture avait été égarée parmi la paperasse de l'entreprise. Certains redoutaient un coûteux procès aux résultats incertains avec toutes les complications que cela implique. Alors, les accusés du projet Clôture, Sonia Abruzzo, Manuela Agnesi, Domenico Crivello, Shirley de la Fontaine, Bruno Lomano, Raphaël Lomano et Tammy Parker. Et à la toute fin de l'article, on peut lire quelques noms de victimes repérées par la GRC d'entreprise, donc concessionnaire de véhicules tout-terrain à Calgary, PME pétrolière en Alberta, entreprise agricole à Notre-Dame-de-Lourdes au Manitoba, un fabricant d'outils en Ontario, un autre de l'Ontario, cette fois une firme de purification d'eau, une PME manufacturière à Windsor en Ontario, un bar de Saint-Jean-Terre-Neuve, à Montclair au New Jersey, une résidence pour personnes âgées et une entreprise non spécifiée à Black Creek au Wisconsin. Conseil de la GRC, assurez-vous que le service a bien été payé avant. Assurez-vous que le service a bien été rendu avant de payer. N'agissez pas sous l'impulsion du moment. Ne restez pas silencieux si on vous menace de poursuite ou d'arrestation. Parlez avec vos proches ou même avec la police pour vérifier de quoi il retourne. Suspension de 10 jours pour les foufounes. Un nombre important d'incidents violents impliquant les portiers des foufounes électriques, une institution de la nuit montréalaise, vaudra 10 journées de fermeture au bar de la rue Sainte-Catherine. L'établissement convoqué devant la justice le mois dernier faisait face à 44 allégations d'actes de violence ou d'emploi de force excessive de la part de ses agents de sécurité. Certains clients ont affirmé à la police avoir été victimes de coups au visage ou avoir été étranglés. Russie. La colère montait hier en Russie après l'incendie dans lequel ont péri au moins 64 personnes, dont 41 enfants, dans un centre commercial de Sibérie, avec comme principal accusé la corruption qui a permis ce drame. À Kemerovo, la cité industrielle de 500 000 habitants où ce bâtiment a brûlé pendant des heures dimanche et lundi, plusieurs centaines de manifestants, dont de nombreux proches des victimes, se sont rassemblés toute la journée sur la place centrale. S'ils ont pris à partie le vice-gouverneur de la région, Sergueï Tsiviliov, qui s'est agenouillé pour leur demander pardon, leur colère était surtout orientée contre le gouverneur Aman Touliev, 73 ans, et au pouvoir depuis 1997, dont ils ont réclamé la démission. Le ressentiment après ce drame s'est propagé dans toute la Russie, où des rassemblements réunissant jusqu'à 2000 personnes ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Le bilan pourrait s'alourdir, le comité d'enquête, l'organe chargé des grandes affaires criminelles, ayant dit avoir dressé une liste de 67 disparus. Parmi ceux-ci figurent probablement des personnes mortes dans l'incendie, l'identification des corps étant très difficile. Le centre commercial, un ensemble regroupant cinémas, salles de bowling et de jeux, magasins et restaurants, avaient ouvert en 2013 sans avoir reçu l'assentiment des autorités, justement en raison de problèmes dans la sécurité anti-incendie, ont expliqué les autorités. Le comité d'enquête a dit avoir découvert des violations flagrantes des règles de sécurité, tant dans la construction que dans la mise en exploitation du centre commercial, qui était très fréquenté le dimanche, notamment par des écoliers amenés au cinéma. Arrivé sur place hier matin, le président russe Vladimir Poutine a déposé une gerbe sur le site de l'incendie et rendu visite à des blessés hospitalisés avant de rencontrer plusieurs hauts responsables locaux et nationaux. Ahipara, treasure hunting for ambergris. Well, there's no need for ambergris, 'cause I'm stretching my thumb with Bella Lucy, tramping around, sleeping on the beach. She ran down the park just for me. Cross the spider tree, that's all I need really now. Geneva, give me a reason why I should stay. I wanna leave my soul and heart here. They're so moldy, so dry. Someone already spat me out. You caught me with your big white mouth. Now I'm stuck inside. Will you chew me? Make me bide my time. A little more and a little more. How can I forget you now? When you fill my heart with so much joy, how can I forget you now? When I love you like I do, how can I forget you now? When every day I need you by my side. Into pieces and I need help to gather them. So pretty darling, please stop calling me at night. I would love to see your face in a sunlight. Oh pretty darling, please stop calling me at night. I would love to see your face in a sunlight.
Elle s'appelle Melissa Kassab. Elle nous chantait Aipara.
On parle du budget, bien sûr, dans tous les journaux québécois d'ailleurs, et même plus. Le budget du Québec 2018-2019, avec une photo de Carlos Letao. Letao ne regarde pas à la dépense. Le dernier budget avant les élections promet une période faste après des années marquées par les privations. Éducation, les dépenses augmentent de 5 %. Santé, l'enveloppe est relevée de 4,6 %. Culture, le ministère gratifié d'une hausse de 11 %. Mobilité, trois projets se partagent 13 milliards. Et à propos du budget, la chronique de Michel David intitulée « Le pays des merveilles ». « Bibliothèque scolaire, le livre numérique reste bel et bien virtuel. Le projet de plateforme de prêt et de stockage demeure lettre morte. Et le débat sur les mères porteuses rémunérées reprend vie. Des députés libéraux veulent faire lever l'interdit qui pèse depuis 2004. À 6 mois des élections générales, le ministre des Finances, Carlos Letao, accélère la croissance des dépenses de programme de 5,2 % en 2018-2019, un niveau inégalé en 10 ans, en plus d'alléger grandement le fardeau fiscal des PME. Pour y arriver, il dégarnit les coffres de l'État québécois. Qui plus est, le gouvernement québécois compte équilibrer les comptes au cours des 3 prochaines années, au moyen des surplus engrangés dans le passé récent. Seulement en 2018-2019, il puisera pas moins de 1,6 milliard de dollars dans la réserve de stabilisation. « On dépense l'argent que nous avons », a dit le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan. Ce budget est porteur d'initiatives concrètes pour améliorer la qualité de vie, en donnant plus de temps aux familles, en améliorant la mobilité par de grands projets structurants et en offrant un meilleur soutien à ceux qui en ont besoin, a déclaré M. Letao à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition ont tour à tour dénoncé la stratégie du Parti libéral qui consiste, selon eux, à donner un coup de frein aux dépenses gouvernementales après avoir été élu pour ensuite remettre le pied sur l'accélérateur dans l'espoir d'être réélu. Le grand oublié, c'est le portefeuille des familles, a déploré M. Legault, reprochant du même souffle aux libéraux de vouloir acheter les Québécois avec le 5e budget. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a accueilli comme une bouffée d'air frais la baisse de la taxe sur la masse salariale et du taux d'imposition des PME. Celle-ci permettra aux petites et moyennes entreprises de réaliser des économies de 600 millions par année. Le gouvernement libéral s'est toutefois abstenu mardi de consentir de nouvelles baisses d'impôts aux particuliers. M. Letao écarte également la possibilité de le faire au moyen d'une mise à jour économique et financière avant le scrutin. « Ce serait électoraliste », a-t-il fait remarquer à la presse. Et au sujet du budget, la chronique de Michel David, je vous en lis quelques paragraphes. « Sabré sans retenue en début de mandat pour mieux dépenser à la veille de l'élection est une recette universellement connue, mais il faut reconnaître au gouvernement Couillard de l'avoir appliquée à la perfection. La lecture du budget que Carlos Letao a présenté mardi, qui servira de cadre financier à la campagne libérale, donne l'impression d'un voyage au Pays des Merveilles. D'ailleurs, le titre de sa chronique, c'est « Le Pays des Merveilles », avec tous les artifices propres aux contes de fées. En comparaison, même les mémorables « vallées verdoyantes » de Bernard Landry prennent des allures de savane. Soit, c'est en pigeant 1,6 milliard dans le fonds de stabilisation qu'il a pu annoncer pour 2018-2019 une hausse des dépenses de programme de 5,2 % qui sera toutefois suivie d'augmentations nettement plus modestes au cours des années suivantes. Ce qui a fait dire au prédécesseur péquiste de M. Letao, Nicolas Marceau, qu'on retombe dans l'austérité au lendemain des élections. Sur papier, le tableau brossé par le ministre des Finances n'en demeure pas moins séduisant. Une économie qui ne s'est pas portée aussi bien depuis 20 ans, un taux de chômage à un plancher historique, un réinvestissement dans les services publics supérieur à la hausse des coûts de système, des dépenses d'infrastructures plus importantes que jamais. Le Québec est actuellement enfermé dans un véritable cercle vicieux de croissance, a déclaré M. Letao. À l'en croire, même un échec des négociations sur l'ALENA ne suffirait pas à l'en faire sortir, dans la mesure où une éventuelle baisse du dollar canadien en diminuerait l'impact. Il n'y aura pas de récession de sitôt, a assuré M. Letao. Le ministre des Finances est un homme d'un naturel optimiste, selon qui il ne faut jamais s'inquiéter dans la vie. « C'est là le danger pour les libéraux », écrit Michel David. À partir du moment où M. Letao assure qu'il y a maintenant une base solide pour bâtir l'avenir du Québec, il n'y a plus lieu pour les électeurs de craindre un changement de gouvernement. Le nombre de surdoses mortelles liées aux opioïdes dans les 9 premiers mois de 2017 au Canada équivaut quasiment à aux données pour l'ensemble de l'année 2016. L'Agence de la santé publique du Canada a publié ces données brossant une sombre réalité mardi au nom du Comité consultatif fédéral provincial territorial spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes. Il y a eu 2946 morts apparemment liées à la consommation d'opioïdes au Canada en 2016 et 2923 morts de janvier à septembre 2017, la vaste majorité de nature accidentelle. De janvier à septembre 2017, le fentanyl et ses analogues étaient en cause dans 72 % des décès accidentels apparemment liés aux opioïdes, comparativement à 55 % en 2016. Les autorités ont identifié la Chine comme une source principale de l'entrée des opioïdes au Canada. Le gouvernement fédéral travaille de près avec les États-Unis et le Mexique dans ce dossier. Et la France va abaisser l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans à partir de la rentrée 2019, une mesure symbolique qui vise surtout à reconnaître la place de l'école maternelle puisque quasiment tous les enfants la fréquentent déjà à cet âge. J'ai décidé de rendre obligatoire l'école maternelle et d'abaisser de 6 à 3 ans en France l'obligation d'instruction dès la rentrée 2019, a annoncé le président Emmanuel Macron en ouverture des assises de la maternelle qui réunissent jusqu'à mercredi à Paris un panel d'experts et de spécialistes de l'enfance. La République s'est inventée dans et par l'école et c'est à l'école aujourd'hui que se tisse l'étoffe de notre bien commun, a déclaré le président. Restez avec nous, l'émission Le quotidien des quotidiens suit, continue après la pause et la chanson avec le Journal de Montréal.
Thank you.
Alexandre Desilets nous chantait « Plus qu'il n'en faut ».
À la une du Journal de Montréal de ce lendemain de budget, 28 mars, après des années d'austérité et à quelques mois des élections, les libéraux vident la caisse. Netflix sera taxé. Pas de profit avec le POT, 3,9 milliards pour la ligne bleue, mais pas d'engagement. Les chroniques de Richard Martineau, On n'est pas né d'hier, Mario Dumont, Dédoublement de personnalité et Rémi Nadeau, L'heure du jugement. La chronique de Rémi Nadeau, L'heure du jugement. Le gouvernement de Philippe Couillard a joué sa dernière carte avant l'élection, un budget de dépenses tous azimuts. Est-ce que ce sera suffisant pour renverser la tendance en faveur de la CAQ? Rien n'est moins sûr, point de suspension. Pour couper l'herbe sous le pied du parti de François Legault, le gouvernement libéral a mis le paquet tout juste avant les vacances des fêtes en annonçant une baisse d'impôts pour tous, des chèques de 100 $ par enfant pour la rentrée scolaire, et une diminution importante de taxes scolaires pour la plupart des propriétaires. Tout y était. Pourtant, toutes ces mesures populaires qui auraient pu plaire à la clientèle de la CAQ n'ont pas fait bouger l'aiguille d'un iota. Le plus récent coup de sonde de Léger, le 3 mars dernier, a démontré une baisse d'appui de 2 % des libéraux, qui atteignait un creux depuis leur élection à 26 % contre 37 % pour la CAQ. Depuis, le gouvernement a confirmé qu'il devançait la troisième semaine de vacances des travailleurs et a assoupli les congés parentaux. Enfin, stratège, les libéraux ont délibérément coulé des informations sur des mesures du budget plus de 2 semaines à l'avance pour occuper l'espace public et tenter de changer le goût amer laissé dans la bouche des Québécois depuis la généreuse entente conclue avec les médecins. Mardi, le ministre Carlos Letao avait encore quelques bonbons dans son sac. Par exemple, à Québec, où les circonscriptions feront l'objet d'une dure bataille, le gouvernement a sorti des boules à mythes l'intéressant projet de pavillon des requins que caressait plutôt la CEPAC depuis des années pour l'aquarium. Puis, surtout, il a annoncé un crédit d'impôt permettant aux couples qui achèteront une première maison de récupérer jusqu'à 750 $. Ça fait du bien. Mais est-ce que c'est un tournant? Non. De plus, le gouvernement Couillard hausse les dépenses de 4,6 milliards de dollars, ce qui le force à puiser 1,6 milliard dans son fonds de réserve, sans quoi il présenterait un budget déficitaire. Même en prévoyant tout de suite une hausse des dépenses bien plus modeste de 2,8 % l'an prochain, comparativement à 4,7 % en cette année électorale, le prochain gouvernement devra encore pomper 1 milliard de dollars de la réserve pour respecter le déficit zéro. La marge de manœuvre qui a permis l'actuelle pluie de dépenses sera asséchée. À la rentrée parlementaire, après les fêtes, un caquiste influent m'avait confié que le parti avait acquis une certitude, que Philippe Couillard était « foutu ».« Foutu » est écrit entre guillemets. La question se pose. Est-ce que la tendance lourde des derniers mois peut être renversée? Le gouvernement libéral a des bons coups à son actif. Il peut se féliciter d'avoir présenté 4 budgets équilibrés consécutifs et d'avoir réduit le fardeau fiscal des Québécois. Par contre, lorsque Philippe Couillard dit que le Québec va mieux, il fait abstraction de la situation intenable dans les urgences des hôpitaux et des enseignants qui quittent la profession épuisés. Les Québécois rendront leur verdict cet automne. L'heure du jugement va bientôt sonner. C'est donc l'article, la chronique de Rémi Nadeau, L'heure du jugement. Thank you. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ne souhaite pas se présenter devant une commission parlementaire britannique qui veut l'interroger sur le détournement de données personnelles récoltées par le réseau social et propose à la place d'envoyer un de ses adjoints, selon un courrier dévoilé hier. Cette proposition a immédiatement été rejetée par les députés britanniques. Le président de la commission sur le numérique, la culture et les médias, Damien Collins, a estimé qu'il était approprié pour M. Zuckerberg de s'expliquer lui-même au vu de la gravité des accusations. Facebook est dans la tempête depuis les révélations sur les pratiques de la société Cambridge Analytica, accusée d'avoir récupéré à leur insu les données de 50 millions d'utilisateurs du groupe californien et de les avoir utilisées pour appuyer la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Plus de 1000 citoyens de Shawinigan et de Hérouville pourraient avoir droit à un dédommagement allant jusqu'à 50 000 $ en raison du bruit des vols d'hydravions touristiques à proximité de leur propriété. Le procès en action collective a commencé lundi. Il vise à déterminer si Bel Air Laurentian Aviation et Aviation Mauricie ou Aviation Mauricie ont agi en mauvais voisin au point d'empoisonner la vie des riverains depuis les 10 dernières années. Le recours demande 5 000 $ par résident incommodé pour chaque saison estivale, 50 000 $ pour 1000 personnes avec indemnité et intérêts additionnels. C'est entraîner la fermeture de l'entreprise. Ça fait 50 millions, a souligné l'avocate de Bel Air Laurentian Aviation, Karine Joisil, dès le début du procès. Le conflit s'est envenimé à l'été 2008. À ce moment, trois compagnies différentes exploitant un total de 9 hydravions destinés aux vols touristiques. Selon la poursuite, il pouvait y avoir une quarantaine de décollages par jour à partir d'une seule hydrobase. Record de demandeurs d'asile, le Canada a établi une nouvelle marque et le Québec s'est classé au premier rang pour l'accueil de réfugiés. Le Canada a accueilli 50 000 demandeurs d'asile l'an dernier et le Québec est la province la mieux placée pour profiter de ce nombre d'arrivées records, affirme le Haut Commissariat des réfugiés. La position géographique isolée du Canada ne le met plus totalement à l'écart des mouvements de population qui sont de plus en plus importants, indique Jean-Nicolas Beuze, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Canada. Si le nombre de demandeurs d'asile au Canada a doublé entre 2016 et 2017, c'est en partie dû à l'afflux l'été dernier de réfugiés haïtiens venus des États-Unis. 50 000 personnes, cela peut paraître beaucoup, mais à titre de comparaison, l'Allemagne a reçu 700 000 demandeurs d'asile en 2016, rappelle-t-il. Le Canada doit continuer de se montrer solidaire de la communauté internationale. Le Canada est un pays riche qui vieillit et a besoin de main-d'œuvre, fait-il remarquer. Les réfugiés que l'on accueille aujourd'hui rapporteront plus en taxes que ce qu'ils ont coûté d'ici 10 à 15 ans. Le Québec est devenu l'an dernier la province ayant attiré le plus de demandeurs d'asile, soit 24 760 devant l'Ontario. Le cycliste décédé utilisait son vélo toute l'année. La famille de l'octogénaire ne croit pas qu'il a été négligent. Le cycliste de 82 ans, mort à la suite d'une collision avec une voiture ce week-end à Boucherville, était dans une forme physique exceptionnelle et utilisait son vélo 365 jours par année, selon ses proches. L'accident qui a coûté la vie à Jean-Guy Couture s'est produit dimanche vers 11h à l'angle du boulevard de Montarville et de la rue de Normandie. L'octogénaire a été heurté par une voiture qui effectuait un virage à l'intersection. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital où les médecins ont notamment découvert qu'il avait des côtes et des vertèbres fracturées, la moelle épinière sectionnée et une hémorragie au poumon, selon sa famille. Son décès a été constaté quelques heures plus tard. L'enquête tend à démontrer qu'il n'y a aucun élément criminel et que l'accident aurait été causé par M. Couture, qui n'aurait pas respecté son feu de circulation, a indiqué la police de Longueuil. Cette hypothèse n'a toutefois aucun sens aux yeux de la famille de la victime. Jean-Guy, c'était loin d'être un cow-boy, un téméraire, confie sa nièce Nicole Couture. C'était le premier à faire de la sensibilisation auprès de toute la famille quant à la sécurité à vélo. Comme la thèse priorisée par les autorités jusqu'ici semble invraisemblable pour les proches, ceux-ci attendent impatiemment les conclusions des policiers et demanderont aussi une enquête du coroner afin d'en avoir le cœur net. L'organisation Pussy Patrol, P-A-T-R-O-L, presse la ville de Montréal de s'impliquer pour endiguer le problème de surpopulation de chats dans la métropole qui devient endémique selon elle. Tous les week-ends, Nancy Leclerc se faufile dans les ruelles de Montréal dans le but de mener des opérations de sauvetage de chats. Il y a 4 ans, elle a remarqué une surpopulation féline dans son quartier. Madame Leclerc a donc pris le taureau par les cornes pour s'occuper de ses chats et a intégré l'organisation nommée Pussy Patrol en tant que bénévole.
Il y a des jours de plaine, on voit jusqu'à la mer. Il y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Il y a des jours de plaine, où l'on entend parler nos grands-pères dans le vent. Il y a des jours de plaine, j'ai vu des métis sans peinture de guerre. Il y a des jours de plaine où j'entends gémir la langue de ma mère. Il y a des jours de plaine où l'on n'entend plus rien à cause du vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai des racines dans la plaine, j'ai toutes ces rengaines dans le sang. J'ai des racines en France, aussi longues que la terre, une langue qui danse, aussi bien que ma mère, une grande famille, des milliers de frères et sœurs. Dans le temps, j'ai des racines en France, aussi fortes que la mer, une langue qui pense, une langue belle et fière, et des milliers de mots pour le dire, de comment je vis, de qui je suis. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai des racines dans la plaine, j'ai toutes ses rengaines dans le sang. Il y a des jours de plaine où dans les nuages on voit la mer. Il y a des soirs de plaine où on se sent seul sur la terre. Et il y a des nuits de plaine où il y a trop d'étoiles, il y a trop de lune, le ciel est trop clair. Il y a des jours de plaine où on voit plus loin que la terre. Il y a des jours de plaine où je n'entends plus la langue de ma mère. Il y a des jours de plaine où même mes grands-pères ne sont plus dans le vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai J'ai des racines dans la plaine, j'ai toutes ces rengaines dans le sang.
On vient d'entendre les Charbonniers de l'Enfer avec la pièce Jour de plaine.
Les journaux régionaux, dans le soleil, Annie Morin, de l'argent pour des requins à Québec. Un nouveau pavillon consacré aux prédateurs est projeté à l'Aquarium du Québec et pourrait amener à Québec des requins, des piranhas, des barracudas et des alligators. Le projet fait son apparition dans la section à l'étude du Plan québécois des infrastructures, PQI, signe que l'estimation des coûts dépasse 50 millions de dollars. Selon les documents du budget, le pavillon comprendrait une douzaine de bassins accueillant des espèces telles que des grands requins, des piranhas, des barracudas et des alligators, mais aussi des salles de classe et de réunion, de même qu'un lieu d'éducation et de sensibilisation quant à la préservation des écosystèmes. Le gouvernement du Québec espère que cet investissement potentiel hisse l'Aquarium du Québec au rang des grands aquariums internationaux. L'attraction est déjà l'une des plus fréquentées par les visiteurs de passage dans la capitale. Le nouveau bâtiment serait construit à l'intérieur du site clôturé, du côté du pont de Québec. Pour les habitués, c'est à la droite de l'entrée principale. Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, n'a pas caché son enthousiasme pour le projet qui se trouve dans sa circonscription de Jean Talon. C'est un projet très intéressant parce qu'il amènera à Québec des espèces que nous n'avons pas. Ce sera une infrastructure qui va nous permettre d'avoir le statut d'un aquarium de classe mondiale et ça va nous amener des gens qui vont venir à Québec peut-être pour cette raison et qui resteront peut-être une journée de plus, a-t-il ajouté plus sérieusement. La Ville de Québec obtient 17 millions pour la mise en œuvre de son plan de revitalisation et de mise en valeur de 4 rivières, Saint-Charles-du-Berger, Montmorency, Cap-Rouge et Beauport. Le projet est cher au maire Régis Labombe qui est mis sur de nouveaux aménagements riverains pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Il prévoit y investir une douzaine de millions de dollars au cours des prochaines années. Un salon pour vieillir heureux et en santé, c'est dans le quotidien aujourd'hui. C'est Mélanie Côté qui signe l'article. Des visiteurs de partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont attendus pour la 29e édition du salon 50+ et des jeux FADOC. Du 13 au 15 avril, c'est sous le thème « Vivre mieux, vivre heureux » qu'une soixantaine d'exposants seront regroupés au Centre Mario Tremblay d'Alma. La présidente de la FADOC région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ungava, Gaétane Simard se réjouit de la thématique qui se veut inspirante, selon elle. À notre époque où nous recherchons la qualité de vie et des moyens pour y arriver, la FADOC est fière de présenter un salon qui regroupe plus d'une soixantaine d'exposants et où les visiteurs pourront retrouver une panoplie de renseignements et de conseils pour vieillir heureux et en santé. Parmi les activités proposées, les visiteurs pourront notamment assister à la présentation de 3 conférences données par des personnalités connues et appréciées du public. Le vendredi 13 avril, le physiothérapeute et conférencier Denis Fortier proposera des exercices thérapeutiques pour préserver sa qualité de vie. Le lendemain, l'acteur Emmanuel Bilodeau sera de passage à Alma pour livrer une conférence empreinte d'humour. Les participants pourront notamment apprendre qu'il a fait fi de ses peurs et de son insécurité pour présenter son premier one-man show et que la méditation, la nutrition et le yoga l'aident à être plus en forme aujourd'hui qu'il l'était à 30 ans. La docteure Christiane Laberge complète le trio de conférenciers, celle qui est spécialiste en médecine familiale depuis 1977, entretiendra les visiteurs sur la santé en général. Pour ce qui est du volet des Jeux, ce sont plus de 800 personnes qui sont attendues pour compétitionner dans une quinzaine de disciplines. L'organisation de la FADOC a rappelé qu'elle a pris soin de développer des disciplines qui sauront plaire aux 50 ans et plus, et parmi celles-ci, le pickleball sera à l'honneur. À notre époque où nous recherchons la qualité de vie et des moyens pour y arriver, la FADOC est fière de présenter un salon où les visiteurs pourront retrouver une panoplie de renseignements et de conseils pour vieillir heureux et en santé. C'est une affirmation de Gaétane Simard, président de la FADOC. Le pickleball est extrêmement populaire aux États-Unis, selon Pickleball Canada, et c'est le sport avec la plus grande croissance en Amérique du Nord. La très grande majorité des joueurs de pickleball au Canada sont âgés de plus de 60 ans et il s'agit d'un sport très social. Nous voulons introduire ce sport de manière significative à l'intérieur de notre organisation. C'est pourquoi j'invite les gens à venir participer en grand nombre à nos ateliers de démonstration tout au long de l'événement et du même coup découvrir les bienfaits et les plaisirs qu'apporte ce tout nouveau sport qui allie tennis, racquetball, tennis de table et badminton, a mentionné le directeur général de la FADOC régionale, Patrice Saint-Pierre. De la vieillesse, on passe à la jeunesse. Jeunesse, francophonie et diversité, c'est dans le droit sous la plume de Julien Paquette. À l'occasion du 25e anniversaire des Jeux franco-ontariens, JFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne fait un clin d'œil à la création de l'événement, mais également à ce qu'est devenue la francophonie ontarienne au cours du dernier quart de siècle, en choisissant l'école secondaire publique Omer des Lauriers pour accueillir plus de 600 jeunes du 18 au 21 mai prochain. Les premiers Jeux en 1994 s'étaient déroulés à Ottawa. Bien que l'événement soit revenu dans la capitale nationale depuis, le choix de l'école Omer des Lauriers se veut un retour aux racines pour le quart de siècle des Jeux, selon le président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, Pablo Mana Sandoval. La directrice de l'éducation du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Edith Dumont, souligne de son côté que l'école Omer des Lauriers est un reflet fidèle de ce qui est devenu la francophonie ontarienne depuis 1994. C'est un symbole riche pour la communauté francophone de l'Ontario d'aujourd'hui parce qu'elle est de façon très authentique une francophonie qui est devenue diversifiée et inclusive. La directrice de cet établissement du Conseil, Dominique Vielleuse, abonde dans le même sens. Selon elle, ce sont plus de 60 cultures différentes qui se côtoient sur une base quotidienne dans cette école de Nipan. Le vivre ensemble qu'on observe à Omer des Lauriers est une fierté et se trouvait au cœur du dossier de candidature en vue de devenir l'hôte des 25e Jeux, donc les JFO, les Jeux franco-ontariens. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du mercredi 28 mars 2018. Hélène Denis avec vous. Merci d'écouter la radio de Canal M de Vues et Voix. On se retrouve après la pause et la chanson avec les actualités culturelles et aussi les sujets libres. Je vous parlerai entre autres du déménagement du biodôme et de ses animaux, bien sûr. À tout de suite. Thank you.
On vient d'entendre Dumas qui nous chantait « À l'Est d'Éden ».
Actualité culturelle, Stéphane Audran n'est plus. Elle était la muse de Claude Chabrol, avec qui elle a partagé 17 années de vie intime et une vingtaine de films, des Cousins 1959 à Betty 1992, en passant par Le Boucher 1970, Violette Nozière 1978. C'était Isabelle Huppert qui incarnait Violette Nozière, mais Stéphane Audran avait un rôle dans ce film. Et bien d'autres. Stéphane Audran, morte hier à l'âge de 85 ans, s'est aussi distinguée dans de nombreuses œuvres réalisées par d'autres grands cinéastes, notamment Le charme discret de la bourgeoisie de Louis Buñuel en 1972, Coup de torchon Bertrand Tavernier en 1981, sans oublier Le festin de Babette en 1987. Dans ce film de Gabriel Axel, lauréat de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, l'actrice interprétait une cuisinière française d'exception qui a pu faire valoir ses talents dans un petit village danois. Stéphane Audran avait passablement réduit ses activités au cours des dernières années. Son dernier rôle remonte à La fille de Monaco, un film d'Anne Fontaine tourné il y a 10 ans. Sonia Benezra se voit confier une nouvelle émission de variété musicale intitulée « Tout le monde aime » à TVA. Il s'agit d'un grand retour à la télé pour l'animatrice, dont la dernière présence régulière remonte à 2012 avec « Benezra reçoit Amusimax ». « Tout le monde aime », qui se déclinera sous forme d'émission spéciale, lui permettra de rencontrer nos plus grandes vedettes de la chanson. Lara Fabian, Rock Voisine, Éric Lapointe, Michel Louvain et Ariane Moffat participeront à la première saison. Chaque émission construite avec la complicité de l'invité remontera le fil des événements qui ont marqué sa vie à travers ses grandes chansons. TVA n'a pas précisé de date de diffusion ni de case horaire. Exposante des trésors de Gilles Carle, muse et compagne de Gilles Carle pendant 27 ans, Chloé Sainte-Marie a décidé d'exposer et de vendre la plus grande partie des œuvres picturales du cinéaste mort en 2009. Quelques 450 dessins et peintures seront présentés à l'Arsenal à partir de samedi et jusqu'au 13 avril. Si l'œuvre cinématographique de Gilles Carle a marqué le cinéma québécois, on a peut-être un peu oublié que le réalisateur des Ploufs et de la Postière a étudié aux Beaux-Arts et à l'École des arts graphiques de Montréal. Alfred Pelland a même été son professeur. On n'est donc pas surpris de constater combien il aura été doué avec un crayon, un feutre ou un pinceau à la main. Gilles Carle a dessiné toute sa vie, s'inspirant de ses dessins pour ses scénarios. L'expo organisée à l'Arsenal comprend plus de 450 œuvres picturales créées entre 1977 et 2008. Des caricatures, par exemple, d'Einstein, de Marie Laberge, de Victor Lévy-Beaulieu ou d'Hubert Reeves, des tableaux, ici le style Picasso, là l'influence de Klee ou de Marcel Barbeau, des portraits de sa muse, Marie-Aline Joyal, qu'il renomma Chloé Sainte-Marie, et beaucoup de dessins érotiques. Une partie des dessins de Gilles Carle a brûlé lors d'un incendie et l'artiste en a jeté un grand nombre à la poubelle. Comme tous les artistes qui doutent, indique Chloé Sainte-Marie. Mais j'en ai récupéré beaucoup. Aujourd'hui, mon devoir est de les protéger. L'artiste aurait pu faire don de ses œuvres à un musée, mais elle dit ne pas avoir les moyens financiers de le faire. Elle veut poursuivre sa carrière et continuer à se consacrer à la cause des aidants naturels qu'elle défend depuis qu'elle s'est occupée pendant 17 ans du cinéaste atteint de la maladie de Parkinson. « Je réalise que j'ai besoin d'un salaire comme tout le monde », dit-elle. Dans l'absolu, Chloé Sainte-Marie aimerait vendre la totalité des œuvres picturales à un collectionneur ou à une institution. Elle va contacter plusieurs personnes à cette fin. « Ces œuvres sont mon héritage, mais aussi l'héritage des Québécois », dit-elle. C'était le journal intime de Gilles. Il parlait de nous, de moi, tous les jours avec ses dessins. « Je l'aimais à la folie, Gilles Carle. Quand tu te lèves et que tu vois un de ses dessins sur ta table de chevet, comment peux-tu quitter un homme comme ça, qui te réinvente une vie? Je n'étais pas capable de le laisser partir », dit Chloé Sainte-Marie. On trouvera donc à l'arsenal des œuvres très inspirées, voire émouvantes en ce qui a trait aux dernières que Gilles Carle a créées. Elles se vendront entre 1 000 et 35 000 prix du même ordre que celui des créations acquises dans le passé par l'Auto-Québec, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et les Caisses populaires des Jardins. L'expo-vente sera placée sous le parrainage de Daniel Lamar, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, collectionneur et grand ami de Gilles Carle. « Cette exposition permet au public d'avoir accès au trésor de Gilles Carle », dit M. Lamar. « J'invite les collectionneurs et les amateurs d'art à découvrir les œuvres picturales de ce légendaire cinéaste. » L'historien d'art François-Marc Gagnon fait également l'éloge des œuvres de Gilles Carle dans un texte qui accompagne le catalogue d'exposition. « L'absolu manque de prétention de cette immense production est remarquable », dit M. Gagnon. Elle s'est située en marge du grand art et a tenu à y rester, comme si Gilles Carle avait voulu faire à l'envers la démarche de l'art moderne. Non pas s'inspirer du « low art » pour en faire du « high art », mais s'installer à demeure loin du « high art ». Rester près de la source quand la communication l'emporte encore sur la création. C'est la raison pour laquelle on aura toujours du plaisir à revenir à ses dessins et tableaux. Gilles Carle, partage et héritage du 31 mars au 13 avril, c'est à l'Arsenal, situé au 2020 rue William à Montréal. Catherine Leduc, dont la voix douce s'est fait connaître avec Tricot Machine, présentera pour la première fois à Montréal les chansons de son album intitulé « Un bras de distance avec le soleil » où la liberté de création a pris le dessus sur tout. À voir demain à la Casa del Popolo. Et pour terminer, une nouvelle dans le Journal de Montréal. C'est insultant. Michel Côté déplore la disparition du magazine francophone Cinéplex. Le milieu du cinéma québécois a accueilli avec colère et inquiétude la décision du réseau de cinéma Cinéplex de mettre fin à la publication de la version francophone de son magazine, tout en continuant à publier la version anglophone. C'est un peu insultant de se faire dire « on coupe, mais on coupe juste le français », souligne l'acteur Michel Côté. Comme plusieurs de ses pairs, Michel Côté a été déçu et choqué d'apprendre la semaine dernière dans un article du journal que Cinéplex cessait la publication de son magazine francophone. La direction torontoise de Cinéplex, le plus important réseau de salles de cinéma au pays, a annoncé cette décision dans un courriel interne envoyé jeudi aux employés de la publication et dans lequel elle expliquait en quelques phrases qu'il n'était plus financièrement prudent de publier le magazine francophone. Pour couronner le tout, le message était rédigé seulement en anglais. On gruge petit à petit sur notre culture francophone, affirme Michel Côté.
Marcher pour me rendre chez moi, sans trop savoir où c'était. J'ai trop marché, tout oublié, même où j'habitais, surtout d'où je venais. J'ai marché entre les gratte-ciels, des forêts sans arc-en-ciel. Je sais plus où je suis passé, tout ce chemin, je l'ai peut-être rêvé. L'hiver arrivera, peut-être je marcherai encore. J'ai marché durant 33 étés, l'année de me regarder les pieds, se dépassant qui m'ont bousculé. J'ai pas levé la tête pour les insulter. Il va
L'artiste s'appelle L'Arche et on a entendu La Marche.
La chronique de Lysiane Gagnon est intitulée « Pourquoi tout ce mépris? » Le torrent de quolibets méprisants dont est victime Martine Ouellette depuis des semaines est quelque chose d'absolument inédit. En tout cas, je n'ai jamais vu pareil acharnement contre un politicien, encore moins un politicien dont le seul crime aurait été de tenir mordicus à ses convictions. Je dis « politicien », or il s'agit d'une politicienne. Serait-ce l'explication? Entendons-nous. Il n'y aurait rien d'anormal à critiquer la chef du Bloc québécois qui se trouve dans la position embarrassante de diriger un parti dont 70 % des députés ont démissionné pour exiger son départ. La critique soit, mais cette unanimité dans le dénigrement, ces injonctions autoritaires qui la somment de partir, même l'ancien chef du Bloc, Gilles Duceppe, est sorti de son devoir de réserve. On lui aurait reproché d'agir comme la pire des belles-mères s'il ne s'était agi de Mme Ouellette, avec laquelle il semble qu'on puisse tout se permettre. Quel autre politicien a été traité de cette façon? Même Gaétan Barrette, attaqué de toutes parts, est respecté en tant qu'être humain. alors que Mme Ouellette est désormais réduite à une caricature déshumanisée offerte aux railleries des badauds. Je ne parle pas des médias sociaux qui charrient n'importe quoi, mais des médias respectables, dont on dirait qu'ils se sont tous donné le mot pour présenter Martine Ouellette comme un personnage infréquentable, ridicule ou toxique. Daniel Lessard de Radio-Canada a fait entendre une rare voix discordante. Il doute qu'un homme serait traité de la même manière. Quoique n'étant pas du genre à voir du sexisme partout, je suis assez d'accord avec lui. L'autre phénomène bizarre, c'est l'attention exagérée que portent les médias aux aléas du Bloc québécois. Les derniers sursauts de vie de cette formation, qui a pourtant déjà fait la preuve de son inutilité, ne cessent, semble-t-il, de fasciner nos confrères, ceux du Devoir particulièrement, qui a consacré je ne sais combien de manchettes et de textes longs et détaillés. Durant les trois derniers mois, le Bloc a été mentionné 16 173 fois dans les médias francophones québécois. Point d'exclamation. On n'a jamais autant parlé du Bloc que depuis qu'il est en train de s'auto-euthanasier. Qu'est-ce qui motive cet intérêt obsessionnel que ne justifie aucunement cette querelle interne dans un parti déjà exsangue et ce triste spectacle d'une poignée de députés affolés à la perspective de perdre leur siège aux prochaines élections? Comment se fait-il que dans un Québec, où la souveraineté reste une sorte de beau rêve pour bien des gens, on en soit venu à traiter de folle la dernière résistante qui porte encore haut les couleurs de la souveraineté? Étrange paradoxe que la psychiatrie sociale devrait creuser. Dans un texte percutant et inspiré publié mardi dans Le Devoir, le musicien et comédien Sébastien Ricard explique cette inquiétante unanimité contre Martine Ouellette par la crise permanente et sourde des institutions politiques et par les compromissions auxquelles se prêtent les souverainistes. Effectivement, Martine Ouellette détonne singulièrement dans un paysage où les souverainistes ont tous, sans exception, peureusement poussé leur option sous le tapis. Mais elle ne fait que s'inscrire dans la longue lignée de l'indépendantisme orthodoxe tel qu'il a été incarné par les pionniers du mouvement et par Jacques Parizeau. Lui aussi voulait axer toute l'action du Parti québécois sur la souveraineté, au détriment de la stratégie du bon gouvernement, ou, dans le cas du Bloc, de la défense des intérêts du Québec. Une fois premier ministre, M. Parizeau a dû mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est cette même stratégie volontariste qui est celle de Mme Ouellette. Elle place le prosélytisme au-dessus de la rentabilité électorale, ce qui est une démarche militante tout à fait honorable et parfaitement normale dans un mouvement qui veut renverser l'ordre établi. On peut trouver sa démarche irréaliste ou mal accordée à notre époque, mais elle n'a rien de honteux ni de ridicule. De la même façon, le référendum lancé par la chef du Bloc n'a rien de grotesque quand on connaît l'historique souverainiste. Sa question est longue et tortueuse. Le PQ a fabriqué de pires questions au référendum de 1980 et de 1995. On reproche à Mme Ouellette de conditionner sa victoire référendaire à une majorité de 50% plus une voix. Mais c'était sur cette majorité simple que le PQ comptait démanteler le Canada, avec l'approbation des leaders fédéralistes de l'époque. On comprend la panique qui s'est emparée des députés bloquistes. L'orientation de leur nouvelle chef risque de les faire battre aux prochaines élections, compte tenu de la désaffection populaire envers la souveraineté. Envoler le juteux salaire de député fédéral, envoler les rêves de retraite dorée, point de suspension. Mieux vaut se contenter de promettre, comme Gilles Duceppe l'a fait pendant des années, de travailler pour, entre guillemets, les intérêts du Québec, plutôt que pour l'indépendance, même s'il s'agissait d'une pure fiction. Les intérêts du Québec seront toujours mal servis par un parti d'opposition perpétuel qui parasite le Parlement du pays, dont il veut se séparer. C'est donc Lysiane Gagnon dans la presse d'aujourd'hui, section débat, chronique intitulée « Pourquoi tout ce mépris ?»
Thank you.
Biodôme de Montréal, les animaux déménagent le temps d'une remise à neuf. C'est dans la presse, mais on en parle aussi dans le Devoir d'aujourd'hui. Une opération de haute voltige se prépare au Biodôme pour protéger la flore et les animaux durant des travaux ambitieux qui forceront sa fermeture durant plus d'un an, soit jusqu'à l'automne 2019. Et le congé de Pâques marquera la dernière chance de le visiter avant la grande opération de remise à neuf. Empereurs, gorfous sauteux, petits pingouins, lynx, paresseux, castors, même les oiseaux exotiques et des poissons s'apprêtent à être relocalisés pour mieux revenir dans un biodôme à l'architecture audacieuse, écologique et novatrice, a annoncé le directeur d'Espace pour la vie, Charles-Mathieu Brunel. Les opérations commenceront la semaine prochaine. Certains partiront en avion, d'autres par la route. On promet à leur retour de nouveaux points de vue en hauteur sur les écosystèmes, des habitats renouvelés et mieux adaptés pour les animaux. Quand ils reviendront, il y aura de la neige tombant du ciel pour eux. Les manchots s'installeront de part et d'autre d'un mur de glace qui sera érigé pour séparer l'écosystème des îles subantarctiques, où vivent les manchots, de celui des côtes du Labrador, où vivent les pingouins. Ainsi, les visiteurs pourront vraiment ressentir le froid du Labrador. D'ici là, a expliqué le directeur intérimaire du biodôme Yves Paré, les cinq empereurs déménageront au zoo de Calgary. Certains d'entre eux sont vieux. Ils resteront possiblement là-bas. On verra si un échange avec le zoo est possible, a-t-il dit. Quant aux autres animaux, certains resteront, d'autres iront également à Calgary et d'autres prendront la décision du zoo de Granby ou des États-Unis. Nous sommes presque une agence de voyage. Ceux qui ont besoin de se baigner se baigneront, ceux qui ont besoin de voler voleront et les paresseux pourront paresser. On ne veut cependant pas dévoiler tous les détails afin d'éviter une sorte de chasse aux Pokémon de nos animaux. Mais tout a été prévu, même l'entraînement pour entrer dans les boîtes de transport, a assuré le directeur. 2,2 millions, c'est le nombre de visiteurs que le nouveau biodôme pourrait attirer chaque année selon les prévisions. Les travaux prévoient aussi le démantèlement du tunnel bas, en béton, conduisant de l'habitat des lynx à la hutte des castors. La nouvelle portion sous-marine de la hutte donnera l'impression d'un prolongement dans l'espace des visiteurs, explique-t-on. Les lynx bénéficieront aussi d'un meilleur environnement, avec l'écho qui sera coupé grâce au nouveau plafond. Grâce au nouveau plan, seule une vitre séparera les visiteurs des gros félins, mais ces derniers vivront dans la quiétude. La direction des installations promet aussi un habitat séparé pour les ratons laveurs et les porcs-épics, qui étaient à l'étroit, ne faisant pas nécessairement bon ménage. La forêt tropicale humide des Amériques ne ressemblera plus à celle d'aujourd'hui dans un an. Il y aura de nouveaux oiseaux pour cohabiter avec les ibis et des nouveaux poissons viendront enrichir les lieux. Une passerelle et une mezzanine offriront aux visiteurs une nouvelle vue sur l'ensemble de l'écosystème et les oiseaux au perché. Les paresseux seront plus faciles à repérer dans le haut des arbres, a ajouté la direction du biodôme. Quant au corridor entre le bassin des gros poissons de la forêt et la grotte des chauves-souris, il donnera l'impression de marcher dans une mangrove avec le soleil filtrant à travers le feuillage. Rien n'est coulé dans le béton, mais il se peut même qu'un grand fourmilier de l'Amérique du Sud, un tamanoir, vienne grossir la famille du biodôme qui compte 4500 animaux. Alors, les animaux déménagent, bon déménagement, puis pour voir l'actuel biodôme, il faut en profiter pendant le congé de Pâques qui s'en vient très bientôt. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Si vous nous écoutez en direct, les paractualités suivent. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée mercredi. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et à la prochaine, Maurice. À bientôt à vous.